C'est surtout, en fait, ça m'intéresse aussi surtout de vous entendre, d'entendre ce que vous en pensez, de l'écologie, de l'avenir de la planète, et de tout ça. Donc, même si c'est nul, et ben, ça sera parfait, comme ça vous m'apprendrez des choses. Donc, j'ai quand même préparé un peu de bafouille. Donc, comment vous pensez à commencer en me parlant d'un livre que je lisais quand j'étais ado. Je pense pas que j'arriverai encore à le lire maintenant, je pense que ça m'ennuierait profondément, mais à l'époque ça me plaisait beaucoup, c'était le cycle de Fondation, hein, un auteur science-fiction qui s'appelle Isaac Asimov. C'est un livre extrêmement compliqué, je pense que maintenant je ne comprendrai plus rien. Et donc, dans ce cycle de Fondation, Asimov met en scène la planète Trantor, hein, qui est la capitale de l'Empire Galactique. Donc Trantor compte 40 milliards d'habitants et est entièrement urbanisée. La population est très prospère, c'est une population fonctionnaire, se consacre entièrement à l'administration de l'Empire, et l'approvisionnement repose sur l'exploitation d'autres astres et le transport interplanétaire de marchandises. Donc la surface de Trantor est intégralement couverte de dômes, elle est urbanisée jusqu'à des niveaux souterrains sur plusieurs kilomètres, des puits thermiques assistés de centrales nucléaires et de centrales solaires en orbite fournissent l'énergie de la planète. Alors cette vision d'une planète ville, c'est aussi quelque chose qu'on a dans Star Wars. D'ailleurs, il est probable que George Lucas s'est inspiré de Asimov sur ce point, la planète Coruscant, hein, qui est entièrement couverte par la ville de Galactic City, qui est la capitale de la République puis de l'Empire. Donc le climat de Coruscant est artificiellement régulé par des satellites, les plus grands immeubles sont plus hauts que l'atmosphère, tous les reliefs naturels, métal, mer, tout a disparu, tout est devenu invisible. Donc sur les cimes de Galactic City, les citoyens les plus riches respirent un air purifié de haute qualité. Leurs immeubles sont entretenus par des droïdes. Et au pied de ces édifices, dans un monde crasseux de tunnels et de couloirs, la population inhale divers mélanges d'air toxique, bien si bien que, en général, les visiteurs de passage viennent avec leurs propres réserves d'air. Donc là, c'est ça, c'est bon Dieu, d'être béni. Voilà. Donc évidemment, à l'heure actuelle, plus personne ne croit que l'humanité va vraiment trouver les moyens de s'étendre au-delà de la planète Terre. Les fantasmes de conquête spatiale ont du plomb dans l'aile. Dans ce domaine, l'optimisme a cédé au réalisme. Nous n'avons pas et nous n'aurons pas à aucun horizon visible. Enfin, peut-être que les physiciens dans la salle nous corrigeront. Nous n'aurons pas les moyens techniques d'agrandir notre espace vital au-delà de cette planète. Donc, cela dit, la vision d'une planète artificialisée, entièrement accaparée par l'activité humaine, transformée en un système entièrement géré par nos machines, cette vision-là est tout à fait d'actualité plus que jamais. Elle a nettement gagné en vraisemblance. Hein, c'est ce que signifie le vocable d'anthropocène, que vous avez peut-être déjà entendu, qui est un terme de géologie. Hein, les géologues, vous savez, donnent des petits noms aux aires géologiques, donc c'est une période extrêmement longue, hein, de l'histoire de la Terre. Les deux précédentes étaient le Pléistocène, l'Holocène, tout ça se perd dans la nuit des temps. Et la situation dans laquelle nous nous trouvons est une rupture dont il est admis qu'elle sera géologiquement visible. Les géologues quelques millions d'années pourront détecter, verront très clairement, probablement plus clairement même que beaucoup d'autres périodes géologiques, ce qui se passe en ce moment. Ce qui justifie de parler de l'anthropocène, l'ère de l'homme comme force géologique, comme une force qui modèle la Terre de façon dominante. Voilà. Alors qu'est-ce que nous sommes en train de faire collectivement, hein, qu'est-ce qui est en train de se passer? Eh bien, nous sommes en train de faire Trantor, de faire une planète massivement artificialisée, où toute nature, ou presque, a été remplacée par des systèmes techniques. Hein, le climat régulé par des machines, l'atmosphère purifiée par des machines, la nourriture synthétisée par des machines. Trantor, c'est ce vers quoi nous dirigeons la Terre en ce moment. Même si, évidemment, nous en sommes encore loin. La direction, c'est celle-là. Hein, en France, on bétonne chaque année l'équivalent de 6 fois la surface de Paris. Au rythme actuel, la part du territoire qui est artificialisée va doubler d'ici la fin du siècle. Alors ça reste des proportions, bon, on est à 9%, on sera à 18% d'ici la fin du 21e siècle si on continue comme ça. Alors on dit, bon, ça laisse 80% de nature. Bon, enfin, les aires géologiques, c'est des trucs genre. Et cette évolution ne peut pas être mise sur le compte de la démographie. Hein, la démographie augmente en France, certes, mais pas du tout à ce rythme-là. Notre développement, pour le moment, consiste à accaparer toujours plus d'espace, à remplacer la biosphère par une anthroposphère, qui est aussi une technosphère. Donc de multiples manières, en tout premier lieu par le changement climatique, nous allons vider la Terre d'une bonne partie de ses organismes vivants. Comme le dit le climatologue Jean Gisel, ce que nous avons devant nous, c'est un autre monde. Alors, vous avez peut-être entendu parler de quelque chose qu'on appelle le jour du dépassement. C'est une ONG américaine, même un collectif d'ONG qui s'appelle Global Footprint Network, qui communique très largement sur le jour du dépassement. C'est le jour de l'année où nous avons épuisé les ressources que la planète peut renouveler en un an. Donc cette notion de jour de dépassement est basée sur celle de l'empreinte écologique, qui est un calcul de la surface de biosphère théoriquement nécessaire pour supporter les activités humaines. Bon, c'est un calcul qui est très critiquable, hein. Disons que c'est un indicateur, il vaut ce qu'il vaut. Il y aurait plein de raisons de le prendre avec des pincettes, mais je m'en sers parce qu'il est quand même assez pratique. Donc, à l'échelle de l'ensemble de l'humanité, la dernière année où la consommation de ressources n'excédait pas la capacité de renouvellement était comprise entre 1965 et 1986, selon les méthodes de calcul. L'humanité vit à crédit depuis au moins 1986. En 2019, le jour du dépassement, c'était le 29 juillet. Nous passons plus de 5 mois sur les 12 que compte l'année à consommer des ressources que la Terre ne peut pas régénérer. Alors une formulation un peu différente que vous avez peut-être entendue, c'est que nous consommons l'équivalent de 1,7 planètes. Alors bien sûr, ce chiffre est calculé pour l'ensemble de l'humanité. Il couvre d'énormes différences entre les individus. Les habitants d'Europe, d'Amérique, d'Australie consomment environ 10 fois plus de ressources que les gens du bas du classement, donc les gens de Haïti, du Bangladesh, du Congo. Alors pour la France, donc Global Footprint Network nous dit que le mode de vie moyen des Français revient à consommer l'équivalent de 2,9 planètes. Vous pouvez vous étonner de cette histoire de planètes multiples, à l'évidence, nous n'avons qu'une seule planète, donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de consommer deux planètes ou trois planètes, enfin, où sont-elles ? Alors si vous comprenez, c'est tout se passe comme si nous étions des rentiers trop gourmands. Vous savez qu'un rentier qui veut rester rentier toute sa vie, il ne peut pas dépenser son capital, il faut qu'il dépense les intérêts que rapporte son capital, pas le capital lui-même, sans quoi, même s'il a beaucoup d'argent dépensé, en fait, il s'appauvrit. Et donc, c'est dans cet esprit-là qu'on dit que nous consommons 2,9 planètes ou 1,7 planètes. Hein, nous consommons plus que ce que la planète peut régénérer, par conséquent, nous grignotons notre capital naturel. Alors, on ne le dilapide pas complètement, on le transforme en un capital industriel. On fait des machines, on fait des bâtiments, des infrastructures, des technologies. Nous transformons la biosphère en technosphère. Une fois de plus, nous allons à 30 ans. Donc, alors l'hypothèse 30 ans suppose, c'est assez important, suppose que ce capital industriel qu'on est en train de constituer sera à même d'assurer notre vie et notre prospérité de la même manière que le capital naturel le fait pour le moment. Par exemple, que quand nous aurons supprimé tous les insectes, nous pourrons les remplacer par des drones miniatures. Que nous pourrons construire des capteurs de CO2 pour purifier l'atmosphère quand nous aurons liquidé l'Amazonie. Que nous aurons des fermes piscicoles pour prendre le relais quand nous aurons vidé les océans et que nous pourrons compenser la perte de fertilité des sols à grand renfort d'engrais, de machines et de logiciels. Hein. Que nous aurons toujours plus de moyens de produire de l'énergie, des éoliennes, des panneaux solaires, la fission nucléaire ou que sais-je. Oui, hein, 30 ans, voilà, s'il n'y a plus de biosphère, est-ce qu'on peut encore vivre sans biosphère? Peut-être que oui, moi je suis plutôt dans le camp qui pense que c'est possible. Et beaucoup de gens très sérieux disent que ça n'a aucune chance de marcher. Que nous ne pouvons pas répliquer la finesse et la complexité des fonctions que remplissent actuellement les écosystèmes. Dans ce cas, comme de mauvais rentiers, nous irons à la banqueroute, plutôt qu'à Trentor. Hein, ce sont les théories de l'effondrement, c'est-à-dire que la collapsologie, hein, c'est bien entendu ce mot-là, la civilisation industrielle ne peut pas survivre à l'effondrement du monde naturel et s'effondrera avec nous. Ça, c'est les deux. Donc voilà, c'est Trentor ou le chaos. Si on revient à Star Wars, évidemment dans Star Wars, le sort de la planète Coruscant n'est pas un drame, parce que l'Empire Galactique comporte des milliers de planètes, qui peut bien se permettre d'en saccager une, et tout le cycle de Star Wars nous fait voyager d'une planète à l'autre avec les personnages, les héros circulent de planète en planète, hop, un coup de navette, donc certaines sont très artificialisées, d'autres pas du tout, on est dans une mégalopole de 200 étages, et puis hop, tout d'un coup on est dans une jungle, avec des animaux géants, ou dans un désert avec des montagnes, des calottes glaciaires avec des sortes de mammouths. Et ce qui est très frappant, c'est que les personnages sont très à l'aise partout. Ça ne fait aucune différence finalement, ils zappent d'un monde à l'autre comme si de rien n'était. Ils ne montrent aucun étonnement, même à peu près aucune réaction par rapport à ces changements de décor drastiques. Alors j'en parlais avec mon mari, ici quand même, il y a un moment où il y a Anakin qui dit « Oh, le sable, ça colle ». C'est à peu près la ville ou la jungle, le climat polaire ou tropical, à d'autres chameaux ou de voitures volantes, dans Star Wars, c'est qu'ils font. Ça ne fait aucune différence. Ils sont pris dans leurs aventures, les intrigues politiques, les intrigues romantiques, les combats réels, les mystiques, la force. C'est ça qui les absorbe. La nature ou l'absence de nature, c'est une simple question de décor. Quel que soit le cadre de vie ou les outils technologiques, un cheval, une navette spatiale, pigeon voyageur ou hologramme, finalement l'humanité sera toujours l'humanité. On fait la guerre, on fait la paix, on tombe amoureux, on a des enfants, on lutte contre le mal, voilà tout ça. Et dans Star Wars, l'écologie passerait pour une préoccupation accessoire, voire un peu anti-humaine. C'est presque une forme d'autisme, ne pas pouvoir regarder les visages, pas pouvoir s'intéresser à l'intrigue et être là, les yeux un peu perdus dans le vague, à regarder les fleurs et les petits oiseaux, enfin on se dit que c'est pas ça l'essentiel. Voilà, cette vision, donc, point de vue de Star Wars. Et alors, un autre signe de ça qui est un peu différent, c'est une anecdote que j'ai entendu le père Frédéric Louzeau raconter, alors que j'ai entendu dans une conférence des Bernard Arnault, je sais pas s'il l'a écrit quelque part, c'est si, enfin d'ailleurs vous allez pouvoir faire l'expérience, si on demande à une classe d'étudiants de dessiner la Terre. Vous pouvez faire les voilà, dites dessinez-moi la Terre. Voilà, vous avez toutes les idées en tête. Et bien, 90% des gens dessinent un rond, dessinent un globe. C'est une planète. C'est-à-dire qu'en fait, vous adoptez spontanément le point de vue de l'astronaute, le point de vue de l'extraterrestre. Parce que vous n'avez aucune expérience de la planète comme un globe. Enfin, pourquoi vous ne m'avez pas dessiné des navets et des vers de terre? Vous avez tous dessiné dans votre tête des navets et des vers de terre. Voilà. Donc en fait, nous avons tous adopté ce point de vue Star Wars de la nature comme décor. Nous vivons hors sol, ou tout du moins nous pensons comme si nous vivions hors sol. Et la Terre est finalement un décor de cinéma. Et alors ça a été longtemps, en particulier, la réaction chrétienne à l'écologie. Même si, bon, depuis la Haute Date aussi, des choses ont beaucoup changé, évidemment. Ce qui compte, c'est la personne humaine, l'aventure spirituelle, le salut des âmes, la nature là-dedans, enfin, c'est le décor. Ça fait pas partie de l'intrigue. Quand j'étais petite, alors moi j'étais déjà 7 ans, en 1990, j'étais déjà très préoccupée par les pandas, et... J'étais bien avec les profs dans mon école catho, et puis mes parents, ils étaient un peu inquiets, ils se demandaient quand est-ce que j'avais commencé à m'intéresser à un problème. Bon, alors ça a quand même beaucoup commencé à bouger, hein, dans le catholicisme. Clairement, dans la note aussi, il y a la question à travailler, c'est la question de notre lien au monde. Et ça, c'est tout le slogan de la note aussi, c'est « tout est lié ». La solidarité de tous et de tout, le lien universel qui découle, évidemment, en premier lieu, de la pensée du monde comme création. Tout sort de la main d'un même père, les personnes humaines, mais aussi les autres vivants, et même le non-vivant, il y a une fraternité universelle. Tout n'est pas équivalent, évidemment, la personne humaine a une éminence toute particulière, mais elle est liée à l'ensemble de la création, elle est liée matériellement, et elle est liée spirituellement. Hein, c'est la terre entière qui gémit dans les douleurs d'un enfantement, hein, le péché et le salut des hommes concernent mystérieusement toute la création. Alors le pape François n'hésite pas à parler de péché écologique, qui choque beaucoup, je connais assez bien les États-Unis où j'ai vécu quelques années, il y a plein de gens qui crient à l'hérésie encore là-dessus. Et le pape François n'hésite pas à faire de la crise environnementale actuelle la conséquence d'une crise spirituelle. Benoît XVI avait déjà inauguré les termes d'écologie humaine, d'écologie de l'homme, pour faire le lien entre les questions d'environnement et ce qu'on appelle couramment la bioéthique. Dans les deux cas, il s'agirait de respecter la nature humaine et la nature non humaine. Donc, je vous cite Benoît XVI dans un discours au Bundestag. Hein, l'apparition du mouvement écologique dans la politique allemande à partir des années 70 a été et demeure un cri qui aspire à l'air frais. Des personnes jeunes s'étaient rendues compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la nature. Que la matière n'est pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la Terre porte en elle-même sa propre dignité et que nous devons suivre ses indications. L'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder avec force un point qui, aujourd'hui comme hier, est, me semble-t-il, largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. L'homme aussi possède une nature qu'il doit respecter et qu'il ne peut manipuler à volonté. L'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi, l'homme ne se crée pas de lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Et sa volonté est juste quand il respecte la nature, l'écoute, et quand il s'accepte lui-même pour ce qu'il est, qu'il accepte qu'il ne s'est pas créé de soi. Voilà, fin de la citation de Benoît XVI. Ça, c'est un argument qu'on... Enfin, surtout là, quand il y a la bioéthique, ça commence à percoler un peu. On entend souvent l'invocation de l'écologie.
Ouais. normalement, ils sont pas censés jouer ici.
Voilà, donc l'invocation de l'écologie comme un argument de bioéthique.
Et surtout, ça les fait rester bien, bien silencieux pour écouter ce que nous disons. Et
donc l'idée que la crise environnementale serait la conséquence d'une crise spirituelle, c'est parce que nous ne respectons plus la nature de l'homme, que nous ne parvenons pas à respecter la nature du monde. Alors là-dessus, j'aurais envie de suggérer qu'on peut peut-être retourner à la causalité. Il y aurait des recherches à faire sur le lien dans l'autre sens. Est-ce que c'est pas parce que... nous avons détruit la nature autour de nous. Hein, quel sens, par exemple, sur la procréation, quel sens aurait le fait de conserver une procréation naturelle dans un monde devenu entièrement artificialisé? Vous vous projetez à 30 ans, nos arguments, enfin, ça n'a plus de sens. Hein. Si nous cultivons des semences OGM dans les champs, hein, parce qu'elles sont plus performantes, plus résistantes, qu'elles sont mieux assorties à nos tracteurs, à nos herbicides, pourquoi pas des bébés OGM qui seront eux aussi dotés de toutes sortes de qualités pour être mieux adaptés au monde industriel. Voilà, nous dépendons de la nature matériellement, nous en dépendons aussi spirituellement. Si nous remplaçons la nature par un système de machines, par quoi pourrons-nous remplacer l'homme dans la même opération? Alors, il y a une deuxième réaction chrétienne, pas anti-écolo, mais à peu près écolo, c'est que le domaine de l'Église, c'est la foi, hein, et que donc on devrait s'occuper d'évangéliser, on va parler de Jésus-Christ, que tout le reste, c'est pas vraiment notre domaine de compétence. Alors là aussi, c'est peut-être... par cet argument-là, parce qu'il vient beaucoup des États-Unis, les Américains, donc, le pape François avec la dot aussi, il est loin de débattre. Bien sûr, c'est ok, mais chacun son métier. Le pape nous parle de la foi et ça ira bien. Et contre ça, on peut au contraire proposer que l'écologie est peut-être un enjeu d'évangélisation. Alors là, bon, ça va être terriblement réac, hein, ce que je raconte. Mais qu'est-ce que ça veut dire être chrétien dans un monde où plus une phrase de l'évangile n'est compréhensible parce que plus personne n'a d'expérience des brebis, des graines de moutarde, de l'ivraie, des lys des champs, des moineaux, de la moisson, du voyage à pied ou de l'eau du puits. Alors, évidemment, tout ça est déjà vrai, mais il y a quand même une nouveauté, hein, il y a vraiment un changement d'échelle dans notre époque. Maintenant, c'est tout le monde, qu'on a vraiment oblitéré le monde naturel dans des proportions qui sont vraiment neuves. Alors, il y a là aussi une question à se poser, l'effondrement du christianisme. Alors, il paraît donc, finalement que il n'y a pas d'effondrement du christianisme chez vous, et que c'est l'explosion démographique. Je suis même de génération précédente où on répétait que le christianisme était mort, et effectivement, c'est le dernier des mohicans. Est-ce que c'est une évolution philosophique? Ou est-ce que c'est pas, peut-être, une évolution technologique? Est-ce que la fidélité au sens de la foi ne devrait pas vouloir signifier aussi une certaine fidélité technique, préserver un monde naturel, agraire et rural, qui n'a été, alors justement, qui n'a pas été seulement le décor de l'évangile, pas le décor, qui a été la substance même de l'évangile. Hein, de quoi parle le Christ? Alors il nous parle de l'amour et de la miséricorde de Dieu, effectivement, du péché, de la grâce, des fins dernières, mais enfin, surtout à un œil non habitué, il parle de moutons, hein, il parle des mauvaises herbes, il parle d'agriculture à toutes les pages. Il parle de chemin de poussiéreux et de sandales, de figuiers, hein, il parle de l'eau du lac et des poissons. Alors, est-ce que nous pouvons nous permettre de dire que tout ça, c'est des détails? L'homme par excellence était charpentier. Il se déplaçait à pied, ou en âne, de temps en temps. Hein, il faisait griller son poisson au feu de bois. Il prêchait sans micro. On se demande d'ailleurs comment il faisait, hein, les 5000 hommes. Il n'y a pas 5 000. Voilà, il savait très bien ce qu'il faisait. S'il avait voulu s'incarner dans une époque de voitures volantes et de smartphones, il aurait pu arranger ça. Hein. Alors, qui sommes-nous pour dire que ce sont des détails? Alors, marcher dans les pas du Christ, peut-être qu'il faudrait être un peu radical et prendre ça au pied de la lettre. Quand est-ce que vous avez voyagé à pied pour la dernière fois? Est-ce que le dernier Pélé était en avion et en autocar climatisé?
Pas du tout. ça tape et ça fait mal.
C'est vrai que je suis bien passé pour le savoir. Moi aussi, je l'ai fait, le Pélé en autocar climatisé. Bon, je sais, c'est affreusement rétrograde ce que je dis là. Je suis un petit sérieuse. On me répète depuis 36 ans que les chrétiens doivent vivre avec leur temps, que la technique est neutre, que ce sont juste des outils dont il faut se servir pour évangéliser. j'ai une sorte de doute. Je suis très très loin de mes capacités philosophiques. On a dit que c'est des questions qui se posent. Hein, dans ma paroisse, maintenant, on peut payer la quête grâce à une appli sur iPhone. Je suis très seule avec mes idées déconformes. Voilà. Et dans un monde qui serait tellement éloigné de celui du 1er siècle de notre ère que les scènes de la vie de Jésus deviendraient impossibles à se figurer, est-ce qu'on peut encore être chrétien? Voilà. Donc tout ça pour dire, Trantor, il vaudrait mieux pas. Hein. Alors maintenant, la question qui se pose, eh bien, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer de direction? À quoi ça va ressembler? On revient à la notion d'empreinte écologique, hein, qui nous donne des outils pour trouver la limite entre une société qui est en train de dégrader le capital naturel et une société qui conserve son capital parce qu'elle vit seulement sur ses intérêts. Ah, ça y est, j'ai réussi à prononcer le mot-clé de la soirée, hein, limite. Donc la sorte de limite dont il est question là, c'est pas une falaise, une frontière où le sol se déroberait soudain sous nos pieds. Hein, c'est la limite entre un régime où l'humanité aménage et cultive le monde et un régime où l'humanité exploite et détériore le monde naturel. Donc surtout si vous êtes proche du point de bascule, c'est une limite qui est en fait invisible, qui est imperceptible à l'œil nu, parce qu'elle concerne l'avenir d'un espace qui est tellement vaste que les transformations vont être très longues à se voir. Et alors là, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes très très loin de cette limite. Et de beaucoup, hein, et depuis longtemps. Hein. Dans la situation actuelle, nous savons de façon certaine que cette limite est loin derrière nous. Enfin, je donne la parole à Olivier Rey, qui l'a très bien dit dans un livre de 2014 qui s'appelle « Une question de taille ». Inutile de pinailler sur la difficulté très réelle à situer exactement la limite quand celle-ci est d'évidence dépassée. Lors d'une inondation, on ne renonce pas à écouper au prétexte qu'il faudrait savoir où exactement est la frontière entre la sécheresse et l'humidité. Concernant la technique, il est à l'heure actuelle moins besoin d'une philosophie raffinée que du simple bon sens pour constater que le point où le « oui » doit se muer en « non » a été franchi dans à peu près tous les domaines. Hein, même moi, je suis une jeune Française, nous n'avons jamais vécu à l'intérieur de cette limite. Et nos parents non plus. Hein, l'ONG, je reviens à Global Footprint Network, là, qui calcule les empreintes écologiques. Alors ils font leurs calculs à partir de l'année 1961. En 1961, les Français consommaient déjà l'équivalent de 1,3 planètes. Donc quand est-ce qu'on était à 1 ? Quand est-ce que la France vivait selon un mode de vie qu'on qualifierait aujourd'hui de soutenable? Eh bien, dans la première moitié du XXe siècle. Bon, alors ça vaut. Là encore, ça fait plein de problèmes de dire ça, parce qu'évidemment la population était beaucoup moins nombreuse, mais il y a aussi eu des vrais progrès d'efficacité. Enfin, à la louche, ça permet quand même de visualiser un peu de quoi on parle. Enfin, ça fait une assez bonne référence pour se faire une idée de à quoi ça pourrait ressembler de vivre dans les limites de la nature. Hein? Alors là, je ne sais pas si ça vous fait très peur ou si ça ne vous fait pas très peur. En 1935, la France comptait rapporter à la population 10 fois moins de voitures qu'aujourd'hui. Hein, c'était à peu près une voiture pour 20 habitants, nous en sommes à une voiture pour 2 habitants. Il y avait, en proportion de la population, 3 fois plus de gens qui travaillaient dans l'agriculture. Alors après, bon, enfin, vous savez, hein, les avions, ça existe à peine, la télévision, pas du tout. Le téléphone vient juste de franchir les océans. On ne peut pas téléphoner sur un autre continent. Mais enfin, bon, alors tout ça, c'est un délire. Bon, cela dit, les Français mangeaient à leur faim, on avait inventé les antibiotiques. Est-ce que vraiment les gens étaient tellement plus malheureux que nous? Voilà. Donc là encore, je suis désolée, c'est vrai que ça fait complètement rétrograde. Et oui, ça m'embête pas du tout de vous dire que le projet écologique est un retour en arrière. Pourquoi pas? Alors, retour en arrière, vivre comme les hommes des cavernes. Non, on ne parle pas de vivre comme les hommes des cavernes, mais on parle peut-être de vivre d'une manière qui ressemble au début du XXe siècle. Donc, à ce que vous serez vécu, alors vous êtes très jeune, ce que vivaient vos grands-parents quand ils étaient enfants. Et d'ailleurs, moi je me demande si cette espèce de panique écolo qu'on ressent en ce moment, hein, dans tout le monde occidental, est-ce que c'est parce qu'on est à l'époque où on est en train de vivre la disparition de la dernière génération qui a connu un mode de vie soutenable, et qu'on le sent, finalement, confusément. Hein, les gens qui sont nés dans la première moitié du XXe siècle sont en train de disparaître, et il n'y aura bientôt plus personne parmi nous pour témoigner d'une vie soutenable. Voilà, donc le projet écologique, oui, peut se formuler comme un retour en arrière, ça ne pose pas vraiment de problème de faire ça. Hein, limiter assez drastiquement l'usage de l'énergie, donc les déplacements de biens et de personnes, renoncer à quantité de technologies sophistiquées, abandonner la consommation de biens de faible durée de vie. Si vous voulez savoir au quotidien, hein, si vous êtes en train de vivre d'une manière durable sans détruire votre héritage naturel, une question relativement efficace, c'est est-ce que ma grand-mère aurait fait ça à mon âge ? Alors si vous êtes adepte de l'écologie des petits pas ou des petits gestes, vous éteignez la lumière en sortant, vous mettez vos emballages dans la poubelle jaune, vous achetez des avocats bio au Monoprix. Parce que ça c'est bien, hein, moi, je ne veux pas vous décourager, hein, c'est bien. Mais ce n'est pas vraiment de ça dont il est question. C'est pas de ça dont je suis en train de parler. Enfin, revenir dans les limites de ce que le monde naturel peut supporter, ça revient à changer radicalement, à changer à peu près tout dans la manière dont vous vivez. Et dont je vis aussi, hein, mais vraiment aucune leçon. Enfin, j'essaie, hein, je couche là-bas. Mais... Sauver la nature, hein, ça veut pas dire être gentil, être raisonnable, se dire ah oui, il faut respecter les limites, ne pas aller trop loin. Non, non. Sauver la nature, aujourd'hui, ça veut dire démanteler la civilisation industrielle. Donc, arrivé à ce point, enfin, je vous ai posé la question, est-ce que c'est une assaise sévère qu'il faudrait s'imposer, c'est un projet de brimade, en termes politiques, à quoi ça ressemble, est-ce qu'on est dans l'autoritarisme, est-ce qu'on propose un nouveau fascisme vert? Voilà, que devient le progrès, que devient l'optimisme? Est-ce que nous pouvons encore continuer à améliorer notre condition? Ou est-ce qu'il faut se résigner à un avenir qui sera pire qu'aujourd'hui? Et donc là, et ben pas du tout. À mon avis, c'est pour ça que moi je fais ça, hein, c'est pas du tout du masochisme. C'est, à mon avis, il ne s'agit pas vraiment de refuser le progrès, que d'aller enfin dans le sens d'un vrai progrès. Démanteler la civilisation industrielle n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est réjouissant, c'est enthousiasmant, c'est un projet politique, social et personnel qui est digne de la jeunesse et voilà, qui est digne de votre énergie. Engagez-vous. Vis-à-vis. Alors là, on arrive au point où j'ai écrit ça très vite et je ne me suis même pas relue, donc ça va devenir un peu n'importe quoi. Donc si je donne à nouveau la parole à Olivier Rey dans une question de taille. Très bon ouvrage. Les dernières décennies écoulées de consommation à outrance, ayant fait la preuve que la dite consommation n'apporte pas un épanouissement, une fécondité et un bonheur sans précédent, la perspective de revenir à des modes de vie plus sobres, comparables à ceux qu'a connus l'humanité depuis ses origines et jusqu'à une date très récente, n'a rien d'effrayant. Et un peu plus loin dans le même livre, les modernes ont mis la jouissance sans entrave du côté de la vie et les limites du côté de la mort. Dès lors, le consentement à la limite ne peut être jamais être que sacrifice, concession douloureuse à une morale oppressive ou à la force des choses. En vérité, ce n'était pas par bêtise, masochisme, manque d'imagination ou d'audace que les anciens prenaient la mesure, mais parce qu'ils connaissaient la vie mieux que nous. Au point où nous en sommes, la première chose à comprendre n'est pas que certains sacrifices sont nécessaires pour éviter une catastrophe, mais que ces sacrifices n'en sont pas. Il ne s'agit pas de limiter pour survivre, mais de se limiter pour mieux vivre maintenant. Hein, donc là, il y a tout. Comprendre le projet écologique, c'est entrer dans une critique de la vie contemporaine, hein, de la vie dans notre civilisation industrielle, et s'autoriser à dire qu'elle est profondément insatisfaisante. Et tant pis si ça ne vous fait pas passer pour un grincheux, moi j'ai pas eu peur de passer pour une grincheuse. Enfin, de plus, ça fait réac, c'est pas grave. Et donc là, un auteur qui parle le mieux et le plus constamment du malheur de notre situation, c'est Michel Houellebecq. Hein, de quoi souffrent les héros de Houellebecq? Presque à coup sûr, il souffre d'impuissance sexuelle. Hein, c'est bien connu que Michel Houellebecq nous inflige des descriptions détaillées toutes les trois pages. Mais finalement, cette impuissance sexuelle est la figure, l'acmé d'une impuissance générale. Hein, dans les particules élémentaires, Bruno, professeur de français frustré et dépressif, pose le constat à ces termes. Je ne sers à rien. Je suis incapable d'élever des porcs. Je n'ai aucune notion sur la fabrication des saucisses, des fourchettes ou des téléphones portables. Tous ces objets qui m'entourent, que j'utilise ou que je dévore, je suis incapable de les produire. Je ne suis même pas capable de comprendre leur processus de production. Si l'industrie devait s'arrêter, si les ingénieurs et techniciens spécialisés venaient à disparaître, je serais incapable d'assurer le moindre redémarrage. Placé en dehors du complexe économique industriel, je ne serais même pas en mesure d'assurer ma propre survie. Je ne saurais comment me nourrir, me vêtir ou me protéger des intempéries. Mes compétences techniques personnelles sont largement inférieures à celles de l'homme de Néandertal. Non, donc ça, les particules élémentaires, livre paru en 1998. Donc depuis, le décalage entre nos capacités personnelles et les objets dont nous disposons au quotidien s'est considérablement accru. En 1998, Michel Houellebecq n'avait pas dû beaucoup fréquenter Baïkonour. Aujourd'hui, nous vivons sur Internet. Nous avons le monde entier à portée de clic. Nous sommes surpuissants. Surpuissants, mais incapables. Notre pouvoir d'achat et la puissance des machines à notre disposition ne se sont pas ajoutées à nos capacités. Mais dans la plupart des cas, elle les a atrophiées ou remplacées. Alors encore un auteur incontournable à ce sujet, c'est Ivan Illich. Ivan Illich, critique du développement. Alors pour Ivan Illich, c'est le principe même de ce que nous appelons développement ou croissance économique, c'est que la consommation de biens et de services se substitue à l'activité personnelle. Ce que vous saviez et pouviez faire, il faudra désormais l'acheter. Le domaine industriel s'étend aux dépens de ce que Ivan Illich appelle le domaine vernaculaire, c'est-à-dire organique, endogène. La disparition des pratiques vernaculaires nous est présentée comme l'effet de la préférence des consommateurs. Alors oui, ils ont choisi d'acheter au supermarché alors qu'avant ils fabriquaient chez eux. Mais est-ce que c'est vraiment un choix, une préférence? Ou est-ce que c'est l'effet de l'extinction des anciennes capacités? À la liberté d'agir, qui est faite de compétences, d'efforts, d'attention au monde et aux autres, qui nous inscrit dans un temps long, on a substitué la liberté de choix, qui est dans l'instant. C'est la préférence instantanée, fulgurante, qui est censée révéler votre personnalité, notre moi profond, mais qui est en réalité tristement prévisible, banale et très facilement manipulable. Alors, il y a un philosophe américain qui s'appelle Matthew Crawford qui a écrit deux livres de réflexion sur la crise de l'agir humain. Et alors, il écrit « Le sens du problème de la technologie est pratiquement à l'opposé de ce qu'on avance généralement. Ce qui fait problème, ce n'est pas la rationalité instrumentale, mais le fait que nous vivons dans un monde qui, justement, ne sollicite pas l'instrumentalité incarnée qui est consubstantielle à notre être. Nous avons trop peu d'occasions de vraiment faire quoi que ce soit, parce que notre environnement est trop souvent prédéterminé à distance. Le problème n'est pas que, à cause des excès de la technique, nous serions devenus utilitaristes, que nous ne considérerions plus les choses que dans la mesure où elles peuvent nous servir, qu'il faudrait revenir à la contemplation. Le problème est que, vivant dans un monde de machines, de systèmes, notre agir est réduit au seul choix. Le modèle, c'est le bouton qu'on pousse, on clique. La case à cocher, le bouton qui déclenche un automatisme. Et les actions, donc, nous disposons d'un menu d'actions préparées pour nous, qui, une fois décidées, arrivent à leur terme sans rencontrer de résistance. Or, si la société de consommation présente une idée du bonheur comme maximisation du choix et maximisation de la jouissance, c'est finalement là une idée du bonheur assez pauvre. Le bonheur consiste peut-être plutôt à l'exercice de nos capacités propres, y compris et surtout dans ce qu'elles ont de frustrant et de limité. Avoir accès à un nombre infini de titres sur Spotify, avec une sonorisation parfaite, ça ressemble peut-être moins au bonheur que de pouvoir jouer un peu de musique ou chanter avec beaucoup de fausses notes avec quelques amis. Puis bravo d'ailleurs pour la musique de tout à l'heure. Voilà. Donc la thèse est que la civilisation industrielle qui détruit le monde vivant autour de nous détruit aussi l'homme. Au sens littéral, bien sûr, il y a des aspects écologiques qui feront beaucoup de victimes, mais ce dont je parle concerne aussi ceux d'entre nous qui sommes bien confortables dans une pièce climatisée. Elle rend impossible l'épanouissement des capacités humaines. À l'épuisement du monde naturel correspond aussi un épuisement de l'humanité, dont les ressources sont taries et les capacités desséchées. Et pour ça, vraiment, je pense vraiment que le christianisme est un point d'appui majeur pour comprendre ça et pour développer l'anthropologie chrétienne vraiment permet de comprendre ça. Comment est-ce que la catastrophe de la terre dévastée ne serait pas corrélative d'une catastrophe de l'homme dévasté? Puisque tout est dit. Ça nous bassine tout le temps avec l'homme augmenté, toutes les promesses de la Silicon Valley de nous rendre plus intelligents, plus performants. En réalité, le QI baisse, le temps de concentration aussi, et il est certain que c'est lié à l'usage massif de ce qu'on appelle les technologies d'intelligence. Les ordinateurs, les smartphones. L'homme augmenté, il a une puce dans le cerveau, mais qui est-ce intelligent? C'est lui ou c'est la puce? N'importe quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai mis après? Encore un auteur américain, Nicolas Carr, qui a écrit écrit un ouvrage très intéressant sur les conséquences cognitives d'Internet. Donc il documente avec beaucoup de précision la façon dont l'usage massif d'Internet change notre manière de penser. Et il écrit « Quand nous nous mettons à nous reposer sur des ordinateurs pour accéder à la compréhension du monde, c'est notre propre intelligence qui s'affaisse en une intelligence artificielle. » Alors évidemment, c'est déjà le cas avec toutes les précédentes technologies. La technologie détermine, construit notre façon de penser, notre capacité de penser, c'est une évidence. Mais encore une fois, là, il y a une différence d'échelle, une différence de régime. Hein. Maintenant, on n'est plus dans l'ère d'une juste croissance et d'un aménagement du monde et d'une culture de nos capacités, on est dans l'ère d'une domination et d'une destruction. Qu'est-ce que j'ai écrit après ? Alors, beaucoup craignent, en particulier chez les chrétiens, que l'écologie soit une pulsion morbide, vaguement suicidaire, hein, que l'homme est la cause de tous les maux, il faudrait supprimer l'homme. Alors moi, il me semble au contraire, l'écologie intégrale qu'on essaie de penser à la limite, cette écologie-là peut et doit se formuler comme une défense de l'homme, comme une rébellion contre la destruction de l'homme. Et alors là, il y a une nuance importante, c'est que refuser la destruction de l'homme, ce n'est pas refuser la mortalité de l'homme. Hein, la capacité à appréhender notre mortalité fait partie de ce qui est proprement humain et qui est à sauvegarder. Donc là, j'ai encore un passage de Olivier Rey sur le sujet de l'écologie morbide. L'idée que plus nous aurons présente à l'esprit la précarité du monde et notre propre mortalité, plus nous serions enclins à en profiter avant la fin et donc à nous jeter dans une consommation frénétique qui hâtera cette fin, est une idée fausse. Ce n'est pas pour rien que la mort est absente de l'univers publicitaire. Le triomphe de la société de consommation va de pair avec un refoulement de notre nature mortelle. Toutes les satisfactions consuméristes, dans leur relative pauvreté, étant incapables de combler le vide du cœur, il n'y a que sur fond d'immortalité qu'elle continue à être poursuivie, avec le sentiment que la quête de satisfaction plus substantielle peut être remise à plus tard, l'espoir vague que l'on pourra toujours, un jour, passer à autre chose. C'est seulement ainsi que l'on supporte une vie mutilée. Le refoulement de la mort est en vérité ce qui conduit à en rabattre exagérément sur son désir profond et dispose à se contenter des fruits blais de la consommation. Et alors après, qu'est-ce que j'avais mis ? Le désir. Alors, on arrête un peu sur le désir. Hein, là encore, parce qu'on a une représentation d'écologie comme encore l'écologie masochiste, une sorte d'idéal ascétique moderne. Il s'agirait de contrôler nos désirs, de leur fixer des limites, n'est-ce pas ? Et alors là-dessus, je voulais vous lire un article qui est dans le bureau de l'Uni. Alors c'est un article du philosophe Jacques Demy, dont je n'avais jamais entendu parler avant de le voir dans Limite, mais peut-être que vous les connaissez, ou peut-être Alors, et donc Jacques Demy nous a écrit dans le bureau de Juillet, on se représente le désir comme illimité, comme sans but sinon lui-même. Ainsi s'est mis en place, dans tout un pan de la pensée moderne et contemporaine, un véritable piège antinomique dont il est difficile de se dépêtrer. Hein, d'une part, une dynamique illimitée et quasiment irrésistible, la dynamique d'un désir, et d'autre part, un obstacle extérieur qui serait seul à même d'empêcher la destruction forcément inhérente à cette dynamique. Alors, par exemple, Freud, pour Jacques de Witt, nous parlons de ce système-là, Freud oppose le principe de réalité au principe de plaisir. La libido, source de tous nos désirs, est censée être une pulsion sans finalité propre et potentiellement illimitée qui jaillit du sujet. Et la réalité est alors l'obstacle extérieur sur lequel bute le mouvement illimité du désir, et qui oblige le sujet à admettre une limite. Et alors, là que j'avais écrit, je vois là un exemple éclatant de la misère profonde de la pensée moderne, avec à la fois une idée bien pauvre de ce qu'est le désir, et une idée bien pauvre de ce qu'est la réalité. Quelle pauvreté, en effet, que celle d'un désir qui n'a en vérité aucun objet et aucun sens, si ce n'est celui d'aller toujours plus loin et d'acquérir toujours plus. Et quelle pauvreté que celle d'une réalité dont le seul caractère est de faire obstacle au désir, indépendamment de toute qualité propre et substantielle. Une réalité qui est étrangement irréelle ou déréalisée. Ce désir et cette réalité sont deux irréalités qui flottent toutes deux en l'air, qui s'opposent sans jamais se rencontrer. Ça, c'est particulièrement simple de tête. Et alors, ce que Jacques Demy propose comme issue, hein, retourner à la nature même du désir, qui est originairement la visée d'une certaine fin, laquelle est en elle-même un accomplissement. Donc il prend l'exemple du train qui entre en gare, qui ralentit et qui s'arrête au butoir. Hein, le butoir n'est pas une limite purement arbitraire et extérieure, une règle inflexible due aux dures contraintes de la réalité. Le butoir est le télos du train, lequel ralentit et s'arrête parce qu'il est arrivé à destination et accomplit ainsi son essence. Hein, c'est toute la différence entre d'une part un mouvement interminable qui a cessé d'être un acte libre et qui est devenu une dynamique compulsive et une fatalité à laquelle on est assujetti, et d'autre part un mouvement qui cherche et tend à rejoindre sa destination. Phrase concise et admirable, c'est toujours Jacques Dewey qui parle. Phrase concise et admirable sur laquelle on peut méditer, le train est arrivé à destination. Rêvons un peu, il n'a pas seulement atteint son point d'arrivée, mais il a accompli un acte qui était sa raison d'être, au moins ce jour-là. Si le train pouvait parler, il exprimerait sans doute la joie ressentie à avoir atteint son but. Bien sûr, il y a de la marge entre la destination d'un train et la destination d'un homme. Mais cette belle tournure peut nous faire réfléchir sur quelques notions aujourd'hui méconnues et devenues quasiment impensables. Destination, accomplissement, fin, mais aussi niveau. Voilà. Donc, j'espère vous avoir convaincu d'une excellente nouvelle. L'écologie est une voie de garage.
Merci. On a vraiment du temps pour les questions, donc
je vais
laisser un petit débat.
Alors, les questions, non, mais on est incapable de improviser des réponses à des questions, non, mais là, ça va être absolument impossible. Par contre, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez. Ce que vous pensez de l'écologie en général, vous êtes 15 ans plus jeune que moi, c'est fascinant, je suis en plein safari. Qu'est-ce qu'on pense de l'écologie à l'école normale supérieure? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive, qui vous fatigue? Comment vous y pensez ?
Personnellement, je suis tout à fait d'accord avec la théorie, entre guillemets, et souvent c'est quelque chose que je trouve même assez beau, tout est lié à l'écologie. Mais, et même en soi, c'est une sorte d'option, effectivement, de revenir de revenir éventuellement en arrière sur certains points. Concrètement, j'ai vraiment du mal avec les moyens concrets. Et concrètement, je ne me reconnais pas du tout dans beaucoup d'actes écologistes, beaucoup de mouvements écologistes. Et voilà, je pense qu'on peut faire concrètement, étant donné que soit on prend des moyens comme faire gaffe à éteindre les lumières, mais c'est pas très utile, soit on s'investit complètement à corps perdu, mais on essaie quelque chose d'autre. Enfin, c'est pas la vocation de tout le monde de s'investir entièrement dans le combat écologique. Donc je sais pas trop ce qu'on peut faire.
Oui,
c'est sûr.
Ouais, je ressens un peu la même chose que toi en fait.
Non, mais moi, j'ai un peu l'impression de m'arrêter des idées.
Je suis complètement d'accord avec ces gens-là et on se sent quand même. Alors il y a tout côté conscientisation politique, on va dire, c'est bien tous les. Je prends un langage daté marxisant des années 70, mais c'est vrai, on peut dire qu'il faut. C'est à travers des événements comme les COP, des trucs comme ça, que la mentalité petit à petit change. Mais c'est vrai que là pour moi, on se sent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'utile en fait, en réalité? J'aurais aussi une remarque à faire par rapport au désir. Je pense que c'est important de réfléchir là-dessus, mais je pense aussi que c'est important de sauver l'infini du désir humain.
Oui. Parce que,
notre cœur est sans repos, sans qu'il ne repose pas. Exactement, c'est-à-dire que je suis complètement d'accord, je suis vraiment profondément d'accord sur l'interaction. L'état là, quand je cause, quand même, hein, que je ne montre pas qui c'est Raoul. Le côté, certes, entre la nature qui est ma nature humaine, et puis la nature comme le monde que Dieu m'a donné, qui a l'interaction. On est mal à l'aise avec soi-même quand on est mal à l'aise dans le monde et réciproquement, ça, je crois vraiment que c'est très important. Et puis il y a quand même cette espèce d'originalité de la nature humaine, c'est que, alors même qu'elle est plongée dans un monde qui est limité, qui a des limites, il y a quand même en nous quelque chose qui est toujours assoiffé. J'ai l'impression que le grand piège du capitalisme, c'est qu'il a réussi à convertir une soif spirituelle en soif matérielle. Et que, si on se contente de dire soyez raisonnable, quoi, soyez acceptez, ayez des désirs limités, et finalement vous serez plus heureux. Je dirais que oui, ayez des désirs limités au plan naturel, mais ça ne veut pas dire éteignez en vous, ce qui est pas un désir, à mon avis, ça c'est un chapitre de théologie important, d'ailleurs, dans le trait de la grâce, qu'on appelle le désir naturel de Dieu. C'est, dans notre nature, il y a un désir de Dieu. Alors qu'il prend des tas de formes, mais il est infini ce désir. Mais il porte pas, justement, il porte pas, il peut pas être comblé dans la frénésie de la consommation. Ouais. C'est pas en passant l'iPhone 5 par l'iPhone 6 qu'on va combler ce désir, en fait. C'est quelque chose de... Mais je me dis, si à travailler quelque chose, surtout dans un truc un peu chrétien,
oui,
c'est de bien, c'est bien distinguer...
C'est un ouais. truc récent représentant ouais. une grande propose en Dieu, et effectivement, nous, ici-bas, on est des exilés, notre vraie patrie est en Dieu, et donc, par conséquent, notre désir est toujours insatisfait, puisque c'est un désir... Ouais. naturel, donc
ici bas,
pour nous, de mirage en mirage. Ouais. Cela dit, il faudrait pas. Enfin, du coup, oui, alors aujourd'hui, on a. Enfin, la société dans laquelle on vit a laissé tomber le christianisme et a gardé l'idée de ce désir inextinguible.
Oui, c'est ça, oui, il y a quelque chose de.
Mais je pense qu'il y a peut-être un nouveau défi pour penser à un christianisme où on est dans un désir surnaturel et ici bas, c'est là encore, est-ce que le monde est un décor qui finalement est. Disjoint de notre vocation surnaturelle, qu'est-ce que le désir surnaturel devient ici-bas?
Ah non, le désir est naturel en fait, c'est le désir naturel. Mais non, mais c'est justement ça qui est en jeu, parce que si le désir est surnaturel, je peux vivre à deux étages en fait. Alors que le désir naturel du surnaturel m'oblige à chercher l'absolu dans le relatif, c'est-à-dire. Ça veut dire que. Mais non, mais c'est ça qui donne en réalité la dignité de l'existence humaine dans un monde au milieu des arbres, et il y a quelque chose de très. Bon, c'est un peu ce que réalisent les moines, après, d'une certaine manière. Quand ils fabriquent du fromage et des trucs comme ça, c'est pour eux, c'est pas le grand écart avec où est Dieu au cœur, en fait, dans le cœur. Et... Enfin, je me dis, comme vous terminez sur la question du désir, qui me paraît qui est vraiment très centrale en anthropologie, à la fois philosophique ou encore plus théologique, je me dis que là, on tient un truc, et je pense que l'écologie, au niveau théorique, je vois, ça a un grand sens, mais le jour où elle réussira, en dehors du christianisme, à prononcer le nom de Dieu, là, on a vraiment franchi pour le coup le limite, et au sens où il faut la franchir. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans l'opposition de l'homme, la nature de l'homme et la nature en face, et il y en a une qui dévore l'autre, un truc à deux, ça ne peut jamais être que dialectique. C'est quand même un grand truc que les gars, là, il faut quand même être trois, et je trouve que dans le langage écologique, il manque clairement un tiers, tiens, auquel nous, on peut donner le nom de Dieu, quoi, ça, je...
Ouais, alors, c'est, enfin, ta question sur le concret, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement, comment est-ce qu'on change de vie concrètement. Effectivement, on est tous là-dedans, hein, c'est compliqué. Et, je trouve surtout, enfin, alors à la limite, on a quand même un modèle, enfin, que j'avais fait un reportage l'année dernière quand j'étais aux États-Unis sur les Amish. Alors, c'est pareil, il faut avoir pas froid aux yeux pour oser. Pour oser prendre les Amish comme modèle, parce que bon, oui, c'est une secte. Mais voilà, c'est Amish, ils vivent avec leurs chevaux.
Avec des tracteurs, des.
Enfin, c'est
comment en Bolivie. Les Amish.
Ah, c'est les Amish en Bolivie.
C'est l'opposition. Enfin, il y a. C'est pas du tout l'objectif qu'on voudrait avoir, parce que pour le coup, effectivement, ils ont pas de voiture, mais pour les équipes partent chez eux. En revanche, sur les tracteurs, quand on a retiré les roues pour qu'ils puissent les utiliser comme.
Comme générateur.
Bref. Oui. Et ils utilisent des terres qu'ils exploitent jusqu'à les détruire complètement.
Oui.
Et ensuite, ils en achètent d'autres. Oui, c'est un peu comme ça. Et en utilisant toutes les techniques industrielles les plus modernes, modernes, très dépassées, parce que c'est insecticide et compagnie. Mais ça colle pas du tout.
Le Amish comme modèle. Alors, il reste que quand même leur impact sur le monde naturel est quand même nettement plus faible que le nôtre. Hein. Et non, ce serait des Amish comme modèle, c'est-à-dire que collectivement, voilà, si vous êtes 10 000, vous pouvez vraiment construire une société parallèle qui soit sur un modèle complètement différent. Et ça marche. Alors, ils ne sont pas autosuffisants, les Amish, mais voilà, ça.
Ça serait une manière de voir les choses par capillarité, on essaie de faire des petites communautés.
Tout seul, c'est vrai, c'est impossible, on ne peut pas vivre de manière non industrielle tout seul. Mais est-ce qu'il faut aller vers la constitution de communautés de vie? Et là, si on est une communauté assez grande, on peut quand même sortir de la société industrielle de manière assez radicale. C'est ce qu'ils sont en train de faire avec Gauthier Bess, notre directeur de rédaction, ils sont allés s'installer à la Bénédiction Dieu. Fonder un éco-hameau, bon, pour le moment ils sont 30, ça va peut-être un peu limité. Mais voilà, il y a vraiment des gens sérieux qui essaient d'aller vers ça, de construire une société parallèle. Et il faut que ce soit une aventure collective. Toi tout seul, dans ton monoprix, ça va vite millions, il lève la main.
J'avais une question de Paul sur. J'ai trouvé ça très intéressant, justement, les distinctions qu'il faut faire entre les gestes un peu éco-responsables, de bien trier, etc. Est-ce que, à votre avis, puisque dans l'idée qu'il faudra tous qu'on retrouve. Essayer des troupeaux de chèvres, est-ce que essayer de penser une écologie dans la ville, ça a du sens? Donc est-ce qu'aller à la Biocop rue Le Gomme pour acheter en vrac ces noix de cajou, est-ce que ça a du sens? Ou bien est-ce que c'est encore en fait une façon de. Une sorte de méconnaissance de la véritable transition écologique, en fait, qui est une façon juste de devenir bobo et de se donner bonne conscience? Ça, c'est une première question. Et en plus, deuxième question. De fait, le mode de vie agricole et tout, et qu'on a un vrai problème sur le fait qu'on ne comprend plus l'évangile parce qu'on n'a plus de rapport avec la nature. Bon, ça, je pense qu'au point de vue chrétien, c'est forcément quelque chose qui pose question. Mais en même temps, la cité céleste, c'est une cité. Et c'est bien une ville, en fait. La Jérusalem céleste, c'est une ville. Et au fond, est-ce que, après la venue du Christ, après l'incarnation, est-ce que le jardin d'Éden, c'est plus devenu le parti auquel on aspire et c'est plus celui qui nous est promis?
Donc, le jardin d'Éden, du début, devient la cité céleste.
C'est ça.
Ouais. Je fous la vie plus, je suis incapable d'improviser une réponse qui ait le moins d'intérêt. Et je me suis posé aussi la question en traversant Paris. Moi aussi, j'habitais à Paris quand j'étais plus jeune. Maintenant, j'habite en province et là, je suis revenue à Paris. Et oui, que peut signifier l'écologie en milieu urbain? Effectivement, c'est une bonne question. Merci d'avoir posé la question. Si quelqu'un d'autre a une opinion, désolez-moi.
Moi, je voulais savoir qu'est-ce que l'écologisme de limite a de spécifiquement chrétien, ou s'il y a quelque chose de spécifiquement chrétien, ou est-ce qu'en fait c'est des chrétiens qui font l'écologisme, mais que finalement tout le monde pourrait faire, ou est-ce que l'écologisme limite à quelque chose de spécifiquement chrétien, en tout cas dans son ADN, si vous voulez.
Oui, moi je suis persuadée qu'il y a, énormément de ressources dans la pensée chrétienne pour penser l'écologie. C'est évident, c'est vraiment la classique qui est quand même liée. Dont il est question à limite à toutes les pages. Ensuite, un enjeu pour moi qui est important de la revue Limite, c'est de l'écologie qui n'est pas anti-chrétienne. Ce qui n'est pas forcément évident. On est content que ça existe pour ça, parce que c'est vrai que le reste des mouvements écologiques peuvent vite. Presque immédiatement, ils vont être malthusiens, ils vont être dans le progressisme sociétal le plus basique. Et donc, ça devient vite compliqué pour les chrétiens, alors qu'à la limite, il n'y aura rien de tout ça.
J'ai une question par rapport à ce que vous appelez le retour en arrière. En quel sens et jusqu'à quel point vous appelez ça un retour en arrière? Parce que quand on y réfléchit, est-ce que c'est pas justement tomber dans le piège de cette dialectique? Si vous ne voulez pas le monde industriel, c'est que vous êtes pour quelque chose avant. Et quand on voit par exemple ce que fait Gauthier Bess, ce qu'on voit par exemple le bec est loin, c'est Jacques Méchère, la permaculture, etc., etc. Est-ce que c'est pas justement quelque chose qui est absolument nouveau et qui est.
Qui est
juste au-dessus, différent.
Oui, de toute manière, le retour en arrière, on va évidemment pas désinventer tout ce qu'on a inventé, on va pas oublier tout ce qui a eu lieu précédemment.
Mais non, c'est évidemment pas un retour en arrière. On va inventer une sorte de retour en arrière, est-ce que c'est pas vide de sens?
C'est plus pour dire que. C'est pas que j'invente le retour en arrière, c'est que j'assume, ça m'est complètement égal qu'on m'accuse d'être rétrograde. C'est plutôt dans ce sens-là. Mais enfin, il faut aller de l'avant.
En quel sens rétrograde? C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est que ça tout sauf rétrograde aujourd'hui.
Comment?
L'écologie, comme une manière pour laquelle il travaille limite et un certain nombre d'acteurs chrétiens, etc., c'est tout sauf rétrograde. C'est extrêmement.
Mais tant mieux si tu vois comme ça.
Non, mais ça m'étonne justement que vous trouviez que. Vous revendiquez quasiment votre statut de rétrograde.
Voilà, c'est un peu
une blague. Oui, mais ça en fait quand même un renoncement quoi, à certaines choses. Peut-être dans ce sens-là que.
Parce que vous pouvez être une famille sans avoir de voiture, quoi.
C'est normal, c'est que tu ne peux pas disqualifier une évolution de la société juste parce qu'elle ressemblerait à renoncer à un retour à la passé.
Je vais expliquer avec beaucoup de clarté, parce que ça reste très confus dans mon esprit aussi.
Oui.
Je trouve que ça reste assez significatif par rapport au progrès qui est assez linéaire. Enfin, soit on va vers l'avant, soit on va vers l'arrière, alors que enfin, moi je pense plutôt que bon, bah, tout le temps en arrière, enfin, c'est une expression qui. On peut se jouer de ce genre de discours-là, mais bon, enfin, j'ai du mal à l'idée du crédit. Quand même. Et je pense plutôt que la notion de progrès mériterait d'être enrichie et que le progrès technique, c'est pas juste mieux savoir exploiter les choses qui sont à notre disposition. Et que d'une certaine manière, on peut s'inscrire dans une forme de progrès, un progrès technique qui soit aussi un progrès moral, qui soit aussi un progrès et une manière de chérir aussi ce que nous avons, qui ne nous empêcherait justement pas d'aller de. Enfin, j'ai encore envie. Enfin, je sais pas comment formuler les choses, parce que j'aimerais, avec cette nouvelle conception du progrès, sortir de cette dichotomie linéaire. On est soit dans le passé, soit dans un futur stupide et série. Mais je pense que la notion de progrès ici, elle est peut-être à enrichir en tout cas, pour essayer de dépasser ça. Enfin, je sais pas si ça vous parle.
Ça paraît un peu unidimensionnel, quoi. En arrière.
Parce que du coup, quand on parle pour éviter la puce, qui est intelligent, là où la puce, on le pourrait, ce serait la puce et moi, non. Enfin. Comment dire. Bah, c'est pas l'un. Enfin, je sais pas comment formuler ça, mais je pense aujourd'hui que le progrès, en tout cas le progrès technique, il est capable d'intérioriser. En fait, on peut penser le progrès sans en sortant de cette. Le progrès, c'est pas juste mieux exploiter les choses. Et la puce et l'homme, c'est pas juste l'une qui remplace l'autre.
Ouais.
C'est. Peut-être qu'il y a une troisième voie à trouver. Enfin, je sais pas, mais. Donc, ça reste très confus, comme vous voyez.
Oui,
je pense que tu as raison. L'idéologie du progrès, ça remonte un peu de. Disons, ce qu'on dit, c'est vraiment à jouer au Charles Flore. C'est une transformation de l'idée chrétienne qui est devenue folle. Ça remonte au 12e siècle. Enfin, au 12e. Là où je crois qu'il y a quand même quelque chose, c'est un peu la critique de la technique, mais disons, il y a quand même quelque chose, bon, l'idée que la technique est juste un instrument et que tout côté bon ou mauvais se tient dans la jambe, je pense que c'est une vision très naïve. Enfin, c'est parce que l'homme finit par. L'homme est ainsi fait que sa pensée, et même peut-être ce qu'il y a de plus spirituel en lui, intériorise et finit par être modelé par son action dans le monde. D'ailleurs, si son action est d'un certain type, il va finir par tout concevoir sur ce type-là. Là où je vois qu'il y a quand même un grand. Parce que moi, je me fais dire qu'il y a quand même une. Comment dire, que la modernité, la science. Et la technique qui m'amène à changer quelque chose, c'est la numérisation de tout. Parce que je ne suis pas pour revenir à la physique qualitative Aristote, mais c'est clair que si vous pensez le monde comme des propriétés, chacune a sa place et chacune a son rôle, et elles ne sont pas substituables l'une à l'autre. Si vous dites que la texture du réel, alors c'est une vieille idée pythagoricienne, mais elle devient vraiment opérante avec, mettons, Galilée et la physique qui suit, vous pensez 10, mais quand vous pensez 10, au sous, vous pouvez dire, bah tiens, mais si on allait jusqu'à 11. Et puis après tout, pourquoi pas aller jusqu'à 15? C'est-à-dire que la nature même, ce qui fait l'efficacité du nombre, et ce qui donne, enfin c'est extraordinaire les mathématiques, d'abord comme construction de l'esprit humain, et dans sa capacité à donner une explication du monde, il y a quelque chose de. Enfin, c'est génial. C'est que, mais le problème, c'est que ça égalise, d'accord, bien. Tout perd sa saveur en réalité. Plus rien n'a de relief. À un certain moment, 12 ou 18 000, bon, bah ok, enfin, c'est 18 est beaucoup plus gros que 12, mais c'est pas la même chose que le froid et le chaud. Vous voyez, alors, je pense que là, on parle de retour en arrière et de choses comme ça, je trouve, peut-être de notre environnement, mais il y a vraiment une conversion spirituelle prodigieuse, et je sais pas trop comment. Enfin, pour moi, c'est une conversion. C'est vrai qu'à un moment, il faut qu'il y ait deux de nouveau dans la barre, parce que arrêter de penser. Je suis bien persuadé que la plupart des gens qui sont des tenants de l'écologie, en réalité, gardent, comme nous tous, on a tous sucé les maths à l'école, gardent une vision numérique de la réalité. Parce que notre esprit a été formé comme ça. Enfin, c'est très compliqué de quitter ça. Vous ne croyez pas?
Improviser une phrase qui va être beaucoup d'être écoutée.
Non, mais je crois que c'est pas pour ça, évidemment, c'est une conversion spirituelle, c'est pas qu'un truc technique, c'est pas que politique. Il y a vraiment quelque chose, c'est profondément spirituel cette histoire.
Non, mais. Moi, ce que j'aimerais, c'est que du coup, c'est... je pense que ça descend un peu la question, parce que le truc, c'est que la transition du monde de 1935 au nôtre, finalement, elle était assez naturelle. Dans le sens où personne n'a forcé les gens d'extérieur à adopter cette doctrine et à passer du. Et la question pour moi, c'est que même si on revenait au stade de 1935, comment est-ce qu'on fait pour parvenir? Moi, par exemple, j'en ai fait l'expérience personnelle qui est très marquante. J'étais finalement dans une ville, bon, un peu. Bah, et même, il y a plein d'autres. Même, il y a au nord de la Russie qui était un peu sous-développée, ou sous-développée, pas vraiment, mais qui était plus développée dans l'autre sens, si on veut, plus 1935. Et du coup, et qui venait, qui était en train de subir un tas d'influences, je pense, un peu qu'on pourrait qualifier de capitalistes. C'est-à-dire qu'il y avait en même temps les vieux marchés, les épiciers qui vendaient leur fromage et leurs fruits, et à côté des grands supermarchés. Je me suis dit, bah chouette, moi je vais aller voir les épiciers. Et au bout de 2 semaines, j'en avais marre, parce que le yaourt, il pourrit dans le frigo au bout de 2 jours, on a envie de faire un tiramisu, ils n'ont pas de mascarpone. Et naturellement, je me trouvais à aller au bout de 2 semaines, j'étais content d'aller au supermarché, alors que 2 semaines avant, je m'étais dit, mais comment est-ce qu'on, en fait, comment est-ce qu'on rend cet état durable? C'est ça, parce que... Et sans.
Oui. Non, mais on expérimente, enfin, même moi je l'expérimente au quotidien, hein, dans mes tentatives de faire des trucs écolo, c'est très souvent le. Enfin, rentrer dans des modes de vie qui sont plus écolos, ça demande de la compétence, ça demande du temps, ça demande de l'effort, et ça demande une communauté. Ça demande de pouvoir s'appuyer sur des voisins, des amis qui font la même chose. Et donc effectivement, et là on retrouve l'argument l'entrée dans une société de consommation et de production industrielle correspond à une perte de compétences personnelles. Et que forcément, on revient en arrière, bah.
Oui, non.
Ça, c'est... Donc, c'est pas instantané, c'est pas juste une question de choix. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Voilà, c'est... Il faut durer, il faut de l'opiniâtreté, parce qu'il ne s'agit pas juste de choisir d'être écolo. Ça ne va pas se faire comme ça.
Mais du coup, la question, c'est une fois qu'on est revenu en arrière, donc ça, c'est, je suis d'accord, pour revenir en arrière,
il faut travailler.
Mais comment est-ce qu'on fait pour revenir? Là, par exemple, aujourd'hui, on voit, c'est-à-dire, la plupart des. J'ai envie de dire, la plupart de la population mondiale vit encore comme nous en 1935. Et en même temps, cette majorité de la.
Je ne sais pas si c'est vrai ça. Hein.
Je ne sais pas quelle est la proportion. Ouais. Mais enfin, j'ai quand même l'impression que les populations qui. Que ces populations, justement, naturellement, alors qu'elles tendent tous un peu vers ça, à part le butant, etc. Et donc, moi, je pense que la grande question qu'il faut en fait. Même qui est un peu là, qui est le présupposé de tout ça, c'est de savoir comment est-ce qu'on reste là, quoi. Comment est-ce qu'on réussit à maintenir cet état, ou même pas à maintenir, mais à éviter qu'on glisse de nouveau dans le précipice. Parce que là, on remonte à toboggan, on monte et ça donne plein d'efforts. Le problème, c'est dès qu'on a plus cette énorme montée, on va glisser, on va tirer en bas des pots.
Il va peut-être falloir qu'on se quitte, mais c'était tout à fait. Passionnant, et ça vient à point nommé dans notre cycle, on vous a dit, hein, c'est un cycle de. La semaine prochaine, alors je regrette d'être pas là pour plein de raisons, bon, parce que c'est moyen de faire ce que je dois faire, mais je pense qu'avec Étienne, on va retravailler ces questions-là, parce qu'Étienne, il est justement, Père Étienne René, c'est exactement la question de. D'incarner ça à la fois comme être humain et comme chrétien, c'est vraiment son boulot, enfin, c'est ce qu'il fait, il travaille, il a un groupe, de... il fait. Donc je pense qu'on pourra continuer dans cette direction, et je vous invite. Je vous invite à continuer à réfléchir à tout ça. Allez, on va...